Bien, bonsoir à tous. Nous voici donc au troisième temps de notre cycle annuel. Nous recherchons toujours les idées qui seront la base d'une nouvelle éthique. Donc nous explorons des idées qui existent déjà naturellement, mais qui seront peut-être à creuser, à développer, de manière à ce que progressivement, dans les années à venir, elles fondent véritablement quelque chose de nouveau. Donc la mort n'est pas en soi une idée franchement nouvelle, ni même les approches d'autres sur la mort, mais peut-être qu'on va essayer de voir ce soir une nouvelle façon de voir la mort, ou peut-être quelque chose de plus complet, de manière à nous la rendre sympathique. Vraiment, quelque chose de sympathique, d'agréable, quelque chose de joyeux, et si bien qu'on repart tous ici, on dit « ouais, la mort, yes !» Vraiment, voilà, une autre façon. Bon, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, parce que mais c'est intéressant. Dans notre société, la mort est quelque chose souvent de tabou. On n'en parle pas et donc, bon. Et pourtant, c'est quelque chose qui est tout le temps présent. On ne s'en rend pas compte, hein, parce que quelquefois dans notre vie, quand on vit notre vie de tous les jours, on dit, bon, bah, c'est assez calme du point de vue de la mort, pas trop entouré de ça. Il y a même des personnes qui pensent que si elles n'ont pas été directement confrontées à la mort, bah, c'est comme si c'est quelque chose qu'elles ne connaissent pas, comme si c'était un peu absent. Et pourtant, la mort et son corollaire, la naissance, sont deux choses qui sont extraordinairement présentes, mais à chaque seconde de notre vie. C'est peut-être la chose la plus omniprésente qu'on puisse imaginer. Par exemple, ne serait-ce que parce que nous faisons partie d'un univers. Les scientifiques nous disent que cet univers, il est né lors d'un Big Bang, et que cet univers, il va vivre un certain temps, et que vraisemblablement, à un moment donné, il va mourir. À l'image, finalement, de toutes les étoiles. Les étoiles comme la nôtre, le Soleil, eh bien, les étoiles naissent et meurent continuellement dans l'univers. Il faut compter, c'est une approximation, il faut que vous comptiez à peu près qu'il y a une cinquantaine d'étoiles qui meurent chaque jour dans l'univers, entraînant avec elles la disparition des planètes, la disparition de tout ce qui peut vivre éventuellement sur ces planètes. Non, sur les milliards de milliards de milliards de planètes, ça ne fait pas beaucoup grand-chose, mais quand même. C'est vraiment quelque chose qui est notoire. Et donc notre Soleil, on le sait parfaitement, bah, il est né il y a quelques milliards d'années et il mourra à peu près aussi dans 2 milliards d'années, entraînant la fin de l'histoire de la planète Terre et de toutes les autres planètes. Donc la mort, c'est quelque chose, vous voyez, déjà d'une manière grandiose, qui fait que c'est le cadre général dans lequel on peut vivre. Les choses naissent et les choses disparaissent. Si bien que déjà, quand on voit ce grand cadre, on peut se dire, mais peut-être qu'on peut imaginer autre chose que l'habitude que l'on a de considérer la mort comme simplement un dysfonctionnement de notre corps. Souvent, on considère que peut-être en améliorant notre fonctionnement, notre santé, etc., peut-être qu'on arrivera à faire reculer la mort, peut-être à la faire disparaître. Comme si, justement, c'était un dysfonctionnement. Or, l'universalité de la mort nous montre qu'il n'y a pas du tout de dysfonctionnement. Ça paraît être une loi fondamentale, générale, quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde les choses. Là, je viens de vous parler de l'univers et des étoiles. Mais si on arrive sur Terre, on aperçoit qu'évidemment sur Terre, dans tous les règnes, mais la mort est omniprésente, mais à chaque seconde. Si vous considérez le nombre d'insectes qui vivent et qui meurent à chaque seconde sur Terre, le nombre de poissons, le nombre d'animaux qui se bouffent, etc., la végétation, tout ce qui vit et ce qui meurt à chaque seconde, mais on atteint des chiffres absolument incroyables, de milliards de morts par seconde. Mais évidemment, de naissance aussi, sinon ça ne serait pas possible. Et donc on s'aperçoit que là, de l'infiniment petit à quelque chose qui soit beaucoup plus grand, même sur Terre, la mort fait partie non pas d'un processus anormal, mais de quelque chose de tout à fait normal. On pourrait même dire que si on arrive au niveau humain, notre vie dépend de la mort. Tous les jours, à chaque instant, notre vie dépend de la mort. Exemple, sur Terre, il se consomme à chaque seconde 9 tonnes de viande. Pour avoir 9 tonnes de viande chaque seconde à consommer, hein, pour se nourrir, bah, il est évident qu'on est obligé du coup de tuer 55 milliards d'animaux terrestres par an. C'est quelque chose, hein, dont 20 milliards de poulets, les pauvres, c'est les plus majoritaires. Vous pouvez ajouter à ça à peu près une centaine de milliards d'animaux marins. Et nos courses, c'est nos repas, c'est notre quotidien. Pour vivre, on est obligé de faire ça. C'est là que les gens disent, ouais, mon fils, je suis végétarien. Donc moi, je ne tue pas. Ah bon ? Ah mais dans le monde, il se consomme 30 tonnes de légumes à la seconde. Et je vous dis, pour consommer 30 tonnes de légumes à la seconde, il faut en arracher. Des choux, des radis, des carottes, des pommes de terre, etc. Donc, tout le temps, on n'arrête pas de tuer finalement tous ces pauvres légumes. sans compter les 2,5 milliards de tonnes de céréales qui sont nécessaires, les 500 millions de tonnes de riz, enfin bref. Donc, végétarien ou pas, de toute façon, notre vie dépend constamment de la mort des autres règnes, animal et végétal. Donc, on voit très bien que la mort, c'est quelque chose qui est tout le temps là. On n'y fait pas attention, parce que c'est tellement naturel que finalement, on oublie totalement, mais c'est quelque chose qui est tout le temps présent. Même si on pense après en termes d'humanité. Souvent, bah, pour nous, c'est vrai que, bon, si on n'est pas trop âgé, on n'a pas vu tellement de morts autour de soi. Disons, dans notre civilisation. Là, c'est vrai que si vous habitez certains coins de la planète, c'est tout à fait autre chose. Mais on pourrait se dire, bon, bah non, c'est vrai que moi, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu 2-3 amis, comme ça, mais assez peu de morts. Oui, et pourtant, c'est vrai qu'à la télévision, tous les jours, on est confronté à la mort. C'est même un des principaux fondamentaux de notre télévision. Dans les informations, qu'est-ce que vous voyez? Des morts à tout bout de champ. Encore un accident, encore un attentat, encore des meurtres, encore une voiture piégée, encore une guerre, encore... Pff, ça n'arrête pas. Et puis après, et maintenant que vous avez vu les informations, maintenant on va vous montrer les experts. Et donc là, vous avez des meurtres, vous avez encore une fois... Et donc à chaque fois, et puis après, pour vous reposer, vous regardez un bon policier, puis après, bref, si vous regardez la mort à la télévision, mais c'est constant, parce que ça nous passionne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment toujours là. C'est comme si on l'exorcisait, parce qu'en même temps, c'est pas nous. Mais finalement, il meurt combien d'humains? Oh ben, pour avoir une petite idée, il meurt à peu près, d'une manière naturelle ou pas, 160 000 humains par jour. Donc la ville de Grenoble qui disparaît, chaque jour. 160 000. Donc vous voyez, même quand on vous dit une catastrophe épouvantable, un tremblement de terre, 1000 morts. Du point de vue de la mort, 1000 morts en plus ou en moins, vous voyez, sur 160 000, ça gonfle à peine les chiffres statistiques, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Ah bon? Voilà, c'est... Mais naturellement, il y a encore beaucoup plus de naissances. Ça va avec. Et puis si on descend dans l'infiniment petit, enfin, dans le petit... En nous, la fois dernière, on évoquait justement les cellules et les bactéries que nous sommes. Ben, c'est intéressant de voir que finalement, en nous, à chaque seconde, il y a 2000 cellules qui meurent. Et à peu près 20 000 bactéries à la seconde. Mais évidemment, sur des chiffres tellement énormes qu'on ne s'en aperçoit pas et qu'on a l'air d'être dans une continuité. Je voulais simplement vous montrer ça rapidement pour vous montrer à combien, finalement, qu'on regarde à l'échelle des étoiles, qu'on regarde à l'échelle du petit, la mort est omniprésente. C'est quelque chose que quelquefois on ne pense pas, parce qu'on ne veut pas penser à notre mort, on ne veut pas penser à la mort de nos proches. Et pourtant, c'est quelque chose qui est tout le temps là. Et naturellement, encore une fois, avec son corollaire, la naissance. Naissance, mort, mort, naissance, ce sont des choses vraiment qui sont là tout le temps, quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde. Et donc ça apparaît non pas comme quelque chose d'extraordinaire, mais parfaitement naturel. Ça paraît même être une loi fondamentale de l'univers, puisqu'il n'y a rien qui ne naisse ou ne meurt à un moment donné. Rien. Donc c'est vraiment une des lois fondamentales de cet univers. Alors à partir de là, on pourrait se dire, mais alors, donc il n'y a pas franchement de quoi en avoir peur. Ben, on n'a pas toujours peur. Hein. Il y a des sociétés encore dans notre monde qui n'ont pas du tout peur de la mort, pour qui c'est très naturel. Il y a des sociétés primitives, et nous, dans les siècles précédents, on n'avait pas spécialement non plus peur de la mort. On trouvait qu'effectivement, c'était naturel, et qu'à un moment donné, généralement, on mourait pas très très vieux, on rendait, notre esprit rejoignait le monde des ancêtres, et puis notre corps était rendu à la terre, ce qu'on appelle le principe de restitution. Voilà, on revient un petit peu, chaque chose retourne à sa place. Et puis ça paraissait tout à fait naturel. Quand est-ce qu'on a commencé à avoir peur de la mort? Oh, bah, dans notre société européenne, on le doit aux églises chrétiennes, qui au moment du Moyen-Âge ont vraiment essayé de faire peur aux gens pour organiser un chantage. C'est la peur à l'enfer. Attention, quand vous mourrez, vous risquez vraiment d'aller en enfer si vous ne vous convertissez pas. Donc ils ont tellement joué là-dessus que les populations, finalement, ont commencé à prendre peur de ce qu'ils risquaient de trouver après la mort. Et c'est vrai que ça a été un grand moment de prise de conscience. Et les populations ont pris peur à ce moment-là, alors qu'avant, il n'y avait pas du tout cette peur de la mort. Et puis depuis, il y a eu encore beaucoup plus fort. Depuis, il y a eu le passage à la conscience individuelle. Tant qu'on est dans une conscience de dépendance, tant qu'on est dans une conscience relativement primitive, encore une fois, l'importance de soi est très relative. Ce qui compte, c'est la tribu, ce qui compte, c'est l'ensemble dans lequel on est, ce qui compte, c'est la nature. On est soi-même que tout à fait un passage momentané, et donc on ne se donne pas une grande importance. Mais quand on a commencé à développer la conscience individuelle, comme on l'a souvent vu, alors là, je me donne une importance. C'est que je suis quelqu'un quand même. Non, mais attendez, moi, non, mais attendez, moi, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, toutes les études que j'ai faites, moi qui suis tellement apprécié de tellement de monde, moi qui suis une star, moi qui suis une vedette du cinéma, de la politique, moi qui suis quelqu'un, moi qui suis un homme d'affaires, moi j'ai fait vivre des milliers de personnes, moi j'ai amassé du savoir, moi j'ai amassé des compétences, j'ai amassé de l'argent, etc. Et tout ça pour rien, parce que le jour où je meurs, tout, ça peut pas possible. Je veux dire, quelqu'un comme moi ne peut pas mourir. Oui, c'est le syndrome Michael Jackson. Donc c'est se dire, non, à un moment donné, c'est pas possible. Il faut que je reste en vie. Et là, du coup, ça nous fait horreur. Et donc, plus on est important, plus j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important, plus je crains la mort, plus je trouve ça absurde, plus je trouve ça révoltant. Et donc, je fais tout pour ne pas y penser et reculer cette idée. Et j'exhorte tous les médecins à faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse aller plus loin. Et les médecins, qui eux aussi ont très peur de la mort la plupart du temps, eh ben, se mettent dans le coup. Et vous en trouvez un certain nombre pour qui, encore, la mort est un échec. Et donc, vous avez encore certains médecins et certains chirurgiens qui se battent contre la mort, pour reprendre l'expression consacrée. Autrement dit, qui se battent contre un processus naturel. Et universel. Mais parce que tout simplement, c'est tellement important que... Mais non, on arrivera bien un jour à vaincre la mort. On arrivera bien à reculer cette date limite. On arrivera bien un jour à ce que, finalement, on meurt tellement lointain ou plus du tout, puisqu'on arrivera à changer tous les organismes. On arrivera à régénérer les cellules. Peut-être que, finalement, l'immortalité s'ouvre devant nous. Oh, génial! Extraordinaire. Oui, ça, c'est le fantasme ultime, finalement, d'un certain nombre de personnes, parce que ça voudrait dire que moi, enfin, je pourrais survivre. En attendant, je vais me faire congé, des fois que je pourrais éventuellement revivre. Vous voyez, ça, c'est un peu de la folie. Mais ça, c'est vraiment la conscience individuelle et l'importance de soi. L'acharnement thérapeutique. Vraiment, il faut conserver celui que je suis le plus longtemps possible. Et puis, comme vous le savez, et puis comme vous le vivez vous-même, plus on est dans une conscience spirituelle, plus on avance, plus on perçoit les choses différemment, plus on sent qu'on n'est pas simplement cet ensemble de matière, mais qu'on est âme, qu'on est esprit, peu importe comment on le dit, qu'on est conscience. On dit, mais il y a quelque chose d'autre. Donc je sais très bien qu'après la mort, il se passe quelque chose d'autre. La vie continue, mais sous une autre forme. Donc on sait très bien qu'effectivement, la mort, c'est simplement qu'un passage et qu'il y a une autre histoire après la mort. Et en plus, il y a tellement de gens maintenant qui perçoivent ça, qui le sentent, pour qui c'est persuadé, que ça finit par se propager. Il y a de plus en plus de recherches par rapport à ça. Finalement, il y a de plus en plus de livres, de plus en plus de films sur la vie après la vie, sur ce qui se passe. Il y a des témoignages, des gens qui ont fait des NDE, hein, des expériences donc de mort rapprochée, des gens qui ont vraiment visité des choses. Il y a des expériences qui se mettent en place dans les hôpitaux, où finalement, pour essayer d'avoir des preuves, parce que des gens qui se réveillent finalement de la salle d'op et qu'ils étaient apparemment mort clinique, puis vous dites, mais moi, j'ai vu dans une autre salle d'opération, là, à l'autre bout de l'hôpital, il se passait ça, on vérifie, et puis c'était vrai. Du coup, les médecins qui disaient, non, mais c'est pas vrai, c'est des délires du cerveau, c'est certaines drogues qui font ça. Oui, mais le cerveau, il n'est pas plus baladé là-bas, donc on commence à se douter, et puis à essayer de faire des expériences. Et ça va aller très vite, maintenant, qu'on va démontrer qu'il y a effectivement cette survie. Le fait de se dire, bon, bah, c'est bien, ça, il y a cette survie, ça n'empêche pas quand même cette petite gêne qu'on peut avoir par rapport à notre mort ou la mort de celle d'après. On a beau croire ça, bon, et alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors c'est vrai qu'on voit très bien que la mort dépend complètement de l'état de conscience dans lequel on est. La clé sur laquelle on va travailler ce soir, c'est de se dire, mais à quoi est-ce qu'on est identifié? C'est vrai que si je suis identifié à ma forme, c'est moi, là, c'est moi, un être de chair, comme ça, avec ce que j'ai fait, ce que je sais, ce que je suis là, et de me dire que peut-être que je vais mourir et que la vie continue et que je me réincarne, mais quand je me réincarnerai, c'est pas moi, c'est un autre. Donc moi, je suis perdu. Vous voyez, l'importance du moi. Bon, on voit bien que tout dépend donc de la conscience que l'on a, et selon la façon dont on s'identifie à l'âme que l'on est, ou à l'individu que l'on est, ou à la masse que l'on est, bah, l'appréhension de la mort n'est pas du tout la même. Par contre, on pourrait commencer par réfléchir sur le sens de la mort. Puisque ça paraît être un phénomène universel, ben quel sens ça a ? Si c'est une loi universelle, si c'est vraiment un phénomène universel, il y a forcément quelque chose de fondamental là-dedans. Alors, si ce n'est pas une usure, si ce n'est pas un manquement donc, des organismes, ça va servir à quoi finalement la mort ? On pourrait commencer par raconter une histoire. C'est l'histoire d'un enfant qui interroge un adulte et qui lui dit, il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Ce quelque chose que je voudrais comprendre, c'est un peu un mystère. Pour moi, c'est que je vois finalement combien dans le monde, partout, il y a des sources. Des sources qui coulent, qui donnent des petits ruisseaux. Ces petits ruisseaux qui rejoignent des rivières qui rejoignent des plus grandes rivières, qui rejoignent des fleuves et qui se déversent dans les mers et dans les océans. Oui. Et on nous a dit à l'école que ça durait depuis des centaines de milliers d'années. Ces sources coulent et se déversent dans l'océan. Ben oui. Ben d'où vient cette source inépuisable d'eau ? Comment se fait-il qu'il y ait quelque part des sources absolument inépuisables, puisque ça source depuis des milliers d'années ? Première question. Et ma deuxième question qui va avec, c'est que toute cette eau qui se déverse dans les mers et dans les océans, pourquoi à la fin les océans ne débordent pas ? Alors on pourrait dire, en ce moment ils débordent un peu. Oui, mais ça c'est la tempête, ça n'a rien à voir. On nous annonce des débordements. Oui, mais ça, ce sera la fonte des glaces. C'est encore un autre problème. Mais si on ne parle pas de fonte des glaces ou de tempête ou de cyclone, depuis des centaines de milliers d'années que toutes ces rivières dans le monde, ça charrie des milliers de mètres cubes d'eau et que ça va dans l'océan, et qu'on nous dit que le niveau des océans ne monte pas. Mais comment ça se fait ? Alors d'une part, il y a une source inépuisable de flotte. Ça va dans les océans, mais après on se demande où ça va, parce que finalement, il n'y a rien, ça ne gonfle pas. C'est là que l'adulte dit, écoute, là, c'est très simple. En fait, tu pars d'un point d'origine et tu dis, il y a toute l'eau qui coule, et qui arrive donc dans l'océan. Mais ton histoire ne tient pas debout et ton histoire, tu ne peux pas la comprendre tout simplement parce que tu ne vois qu'une partie de l'histoire. Si tu voyais la totalité de l'histoire, tu vas voir que c'est complètement logique. Mais par contre, je comprends qu'effectivement, ça n'est pas de sens si on regarde que ce petit bout. Tout simplement, c'est que toute l'eau qui va dans les océans, comme nous l'avons vu le mois dernier, cette eau, il y a une grande partie qui s'évapore. Et voilà. Et donc, elle s'évapore complètement. L'eau devient vapeur d'eau. Bon, et alors ? Alors, à un moment donné, ça se condense dans ce qu'on appelle des nuages. Et les nuages voyagent, poussés par le vent, ils vont plus loin, etc. Et alors ? Et à un moment donné, les nuages, ils vont retomber sous forme de pluie. Et ce sont ces pluies qui vont nourrir les nappes phréatiques. Et à partir de ces nappes et à partir de tous ces points, de nouvelles sources vont surgir et le cycle recommence. Et donc, il y a bien un point qui est réalimenté en permanence parce qu'une espèce de source éternelle, ça ne marche pas. Et puis les océans, ils ne débordent pas tout simplement parce qu'il y a une grande partie qui régulièrement s'évapore sous forme de pluie. Et ainsi, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Mais c'est vrai que si tu ne vois pas le cycle de l'eau, si tu ne vois que l'histoire des sources qui coulent sans arrêt puis qui va à l'océan, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ben oui, effectivement. Et alors là, l'enfant pourrait dire, mais alors, si je comprends bien, est-ce que cette histoire du cycle de l'eau, on pourrait se l'appliquer à nous humains ? Parce que nous aussi, on se demande un peu, tous ces gamins qui naissent, ils viennent d'où ? Donc, il y a une réserve de gamins quelque part ? Alors, depuis que les millions d'années que ça naît, ça naît, il y a une source inépuisable là encore, et puis ça meurt, et puis ça va où après ? Tu viens de réinventer effectivement l'histoire, c'est tout à fait exact. Qu'effectivement, les humains vivent un certain temps, voilà, c'est ce que nous voyons ici, puis après, effectivement, ils s'évaporent. Pour se retrouver véritablement en tant qu'âme. Et puis ils vont revenir, et puis effectivement, donc là, il va y avoir une naissance. Et donc ainsi, il y a un cycle. Et donc le cycle de l'eau, tel que tu viens de le comprendre, c'est effectivement le cycle que beaucoup de gens vivent, que beaucoup d'espèces vivent, et finalement, certainement, d'une manière universelle. Il dit, mais c'est pour ça que souvent, les gens ne comprennent pas l'histoire de la mort. Ah oui, absolument. C'est sûr que si on n'a pas l'ensemble du processus, ça n'a pas de sens. Et que par conséquent, pour comprendre la mort, il va falloir tout simplement nous remettre dans l'ensemble du processus. Donc, nous avons ici ce qu'on pourrait appeler donc une vie terrestre. C'est ce que nous vivons, donc nous, nous sommes dans un corps. Lorsque nous sommes dans un corps, nous avons plusieurs corps en réalité. Il n'y a pas que le corps physique, celui-là c'est celui qu'on voit, mais il y a aussi un corps d'énergie. Il y a un corps sensible qu'on appelle le corps émotionnel, il y a un corps mental, il y a notre personnalité, donc il y a pas mal d'éléments. Et puis tout ça donc, est régi par l'âme que nous sommes fondamentalement. Naturellement, à partir du moment où nous allons mourir, nous allons passer par une phase comme ça qu'on appelle une phase d'élimination. Il va falloir que nous éliminions peu à peu tous nos autres corps. Parce qu'au moment de la mort, seul le corps physique va rester là. Et quand on va se retrouver de l'autre côté, comme ça vous a été raconté dans d'autres films, comme Le Sixième Sens, ou comme on le voit dans Ghost, tout simplement, les autres corps sont parfaitement toujours présents. Ça veut dire que quand je suis mort, bah c'est vrai que mon corps, mais j'ai toujours les mêmes émotions, j'ai toujours les mêmes pensées, ça ne change rien. Il y a juste mon corps physique qui est là. C'est peut-être souvent une des premières surprises des gens quand ils passent de l'autre côté, qui ne s'en souvenaient pas, c'est à quel point, dans la mort plus une minute, c'est tellement pareil que la mort moins une minute. Ça veut dire que franchement, du point de vue de la pensée, du point de vue de la perception des choses, du point de vue de ce que l'on ressent, c'est rigoureusement semblable. Voilà. Si j'étais sympa avant la mort, je reste sympa après. Si j'étais franchement con avant la mort, je le reste après. Ah, vraiment, donc, il ne faut pas croire qu'il y a un changement comme ça, tout simplement parce que nos corps émotionnels et mentaux sont encore là. Oui, mais ils disparaissent quand ? Oh, bah, ils vont disparaître au cours de cette phase d'élimination, qu'on appelle aussi une phase de purge. Je vous mets simplement ce mot-là parce que les chrétiens connaissent le purgatoire. Le fameux purgatoire, c'est cette phase de purge où on doit purger notre corps émotionnel, notre corps mental, avant de se retrouver ici en tant que vie d'âme, sur son propre plan. Là, on est vraiment dans l'âme telle qu'elle est. Mais avant de se retrouver sur ce plan-là, il va falloir éliminer les autres corps. Donc la mort va prendre aussi un temps fou par rapport à ses corps. Alors ça prend combien de temps ? Oh, c'est extrêmement variable. C'est vrai que le corps émotionnel, si vous avez complètement vécu dans les émotions et dans l'affectif au cours de votre vie terrestre, vous allez mettre beaucoup de temps, des dizaines et des dizaines d'années avant de l'éliminer. Par contre, si vous avez fait ce travail bien avancé sur Terre, vous pouvez rester peut-être que quelques jours, très peu de temps. Je parle en temps de vie terrestre, naturellement, sachant que de ce côté-là, le temps n'a plus du tout la même importance ni la même connotation que ce que nous pouvons percevoir. Puis après, il faudra se débarrasser du corps mental. Là aussi, il faut le purger. Et donc, il y a un véritable temps. Ça peut vraiment prendre, encore une fois, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs dizaines d'années, selon les individus, pour pouvoir se purger. Et après, on va se retrouver enfin tel que nous sommes. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'âme, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on est. C'est ce que nous sommes, nous. On se retrouve véritablement comme ça. Hein, je vous rappelle la parole de Pierre de Teilhard de Chardin, qui disait qu'il faut toujours se souvenir que nous ne sommes pas des humains tentant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels tentant une expérience humaine. Ça, c'est toujours très très important de s'en souvenir. Notre nature, c'est vraiment nous sommes ces âmes. Et donc, nous nous retrouvons enfin débarrassés de tous ces corps, de toutes ces limitations, de toutes les souffrances qui allaient avec, des êtres de lumière. Et on retrouve les copains, alors c'était pas trop dur. N'en parle pas. C'est affreux. Quand je pense qu'il faut y retourner. C'était dur à ce moment-là. Rien. J'étais enfermé dans un... Un type, il ne comprenait rien, il ne voyait rien. Dans le noir, ça a duré longtemps, 80 ans. Un petit temps de vacances, on va pouvoir aussi travailler avec le copain, concevoir, et puis se dire, maintenant, ce n'est pas le tout, mais on est venu par rapport à une certaine mission, donc il va falloir y retourner. Et on va retourner là, et donc ici, on va avoir une phase qu'on appelle d'élaboration. Il va falloir élaborer le futur être que nous allons être ici. C'est quoi cette élaboration ? Eh bien, tout simplement, il va falloir déjà qu'on reconstitue l'être humain progressivement. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passe pas uniquement à travers, justement, donc la gestation humaine. Il ne faut pas croire ça. En réalité, tout ce processus, comme nous l'avons vu il y a 2 mois, c'est un processus d'élévation de la vibration. Vous vous souvenez, il y a 2 mois, nous avons vu combien on a dit que évoluer, c'était augmenter la vibration, la vitesse vibratoire. Et on avait travaillé justement sur cette vibration. Et donc, à travers une vie, quelle qu'elle soit, même si ça paraît un peu difficile, on élève le taux vibratoire. Et à partir de là, eh bien, le mental a un taux vibratoire, l'émotionnel, le corps éthérique ont des taux vibratoires. Et ce qui est assez intéressant, pour ne pas avoir toujours à recommencer à zéro, c'est que lorsque l'âme prépare son futur corps mental pour la nouvelle vie, elle le travaille sur le taux vibratoire qui est hérité de l'ancienne vie. Même chose par rapport à l'émotionnel, on a le taux vibratoire de l'ancienne vie. On a le taux éthérique de l'ancienne vie. Autrement dit, dans l'élaboration, l'âme prépare son futur corps mental, son futur corps émotionnel, son futur corps éthérique, entièrement fait sur les mémoires de la vie précédente. Et quand tout ça c'est prêt, on va rechercher des parents, donc un milieu familial dans lequel tout peut s'organiser. Et c'est seulement à ce moment-là qu'effectivement va se passer la rencontre d'une ovule et d'une spermatozoïde et qu'il va y avoir s'en suivre 9 mois de gestation. Vous remarquerez, c'est juste une petite parenthèse, que le côté mental, émotionnel et éthérique de l'enfant est prêt avant même de rencontrer les parents. Ceci pour vous dire que ce qu'amènent les parents, c'est seulement le corps physique dense. Les parents n'amènent rien de rien du corps mental, du corps émotionnel et du corps éthérique. Ça, nous le devons à ce que nous avons vécu auparavant. C'est nous qui l'amenons avec nous. Donc désolé pour les pères, eh bien mon fils a hérité de mon sens des maths, ah, rien du tout. Et la mère, bah, je crois qu'il avait hérité de ma sensibilité, mais rien. Ça, il l'a amené avec lui, c'est justement son héritage de sa vie antérieure. Voilà pourquoi, vous voyez, ça nous donne un sens des responsabilités énormes, parce que nous sommes toujours dans cette vie l'exact résultat de ce, là où nous étions la vie d'avant. Sauf le corps physique dense, qui est effectivement donné par les parents. Et là, donc, à ce moment-là, il va y avoir une naissance et une nouvelle vie terrestre qui se met en place. Voilà donc quelles sont nos quatre grandes phases. Une phase de vie terrestre, une phase d'élimination, une phase en tant que vie d'âme et une nouvelle élaboration pour recommencer. Ce qui est intéressant, c'est que ça va mettre en évidence quatre angles. Et donc ces quatre angles, pour commencer ici, bah celui-ci, on va l'appeler naissance. C'est le passage donc, de l'élaboration au moment où on passe dans la vie terrestre. L'angle d'en face, on va l'appeler mort. Là, effectivement, c'est le moment où on va quitter cette vie terrestre pour entamer la phase d'élimination. Là, cette phase-là, cet angle-là, on va l'appeler libération. C'est le moment où on se retrouve enfin totalement libéré des différents corps et des différentes limitations pour vivre complètement notre vie d'âme retrouvée. Et enfin, cet angle ici, donc on va l'appeler impulsion, c'est un moment où l'âme sent d'une manière très nette qu'il faut y retourner, qu'il faut y aller, et donc à nouveau, un nouveau cycle se met en place. Et donc, comment est-ce qu'apparaît la mort dans tout ça? Mais juste comme un angle. Oui, c'est vrai que si on isole la mort pour dire « mais ça n'a pas de sens, la mort », ah ben c'est sûr que si on voit que ça, ça n'a pas de sens du tout. Si on le voit finalement par rapport à l'ensemble et à voir simplement combien c'est un petit changement, c'est simplement un changement de conscience qui intervient dans une logique d'un cycle absolument extraordinaire. Et de voir, comme on l'a vu la fois dernière, combien tout est cycle, combien tout fonctionne à travers des cycles. Et que finalement, bah, ça prend son sens à travers ce processus-là. Là, je vous ai dessiné le processus général. Bien évidemment, à partir de là, on pourrait préciser quelque peu. Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Il faudrait d'abord imaginer que le grand processus humain, pourquoi est-ce que l'âme est venue sur Terre, hein, on l'a souvent vu, c'est pour y amener ses qualités. On sait qu'en tant qu'âme, nous sommes parfaits, donc nous ne sommes pas venus sur Terre pour nous parfaire. On est venu pour élever la matière, on est venu pour spiritualiser la matière, on est venu pour apporter des qualités d'unité, d'amour, des qualités de clarté. Bref, toutes les qualités d'âme que nous sommes, on est venu pour amener ça. Mais pour pouvoir le faire, il est complètement indispensable que nous-mêmes, bah, en tant qu'âme, nous ne pouvons pas faire grand-chose sur de la terre matérielle. Il faut qu'on se dote d'un outil, qu'on appelle la personnalité, avec un physique, un émotionnel, un mental. Et donc, il faut qu'on construise ça tout d'abord. Alors, quelles sont les premières missions ? Et bah, les premières missions, quand on voit en tant qu'âme, on se dit, bon, bah, il faut construire l'outil. Et donc, pendant des centaines et des centaines de vies, bah, on va construire, c'est quoi le projet d'âme ? Simplement établir un physique solide. Voilà, on fait un physique solide. Et puis on meurt, on s'aperçoit que le niveau vibratoire a augmenté. Ah, on se dit, c'est meilleur comme physique. C'était passionnant comme vie, c'était nul. C'est vraiment physique de chez physique. Il faut y retourner, oui, il faut y retourner, d'accord. Et là, vous commencez à comprendre, vous voyez, quand je vous dis ça, pourquoi les ésotéristes disent que souvent, on pleure à la mort et on se réjouit à la naissance. Ils disaient, mais si vous étiez quelque peu conscient de l'âme, vous verriez combien il faut inverser le processus. Combien pour l'âme, c'est dur de redescendre dans cette vie limitée. Par contre, quand l'âme se libère, ouais, les vacances. Donc, il faut complètement inverser le processus. Ce qui nous paraît, vous voyez, absurde pour l'instant de pleurer sur un berceau. C'est le gamin. Par contre, le gamin, il sait. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'un gamin, ça pleure tout le temps, ne cherchez pas. Il y a quelque chose. Hein. Bon. Et donc, tous les premiers projets, ce sont effectivement des projets de construction. Et donc, il va falloir construire le corps physique, puis le corps émotionnel, puis le corps mental, puis la personnalité. Et comme on n'est pas tout seul, là, mes groupes, ben, on peut imaginer, vous voyez, bon là, je délire un peu, mais j'imagine quelquefois un petit peu les projets qui se font. Bon, alors, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Écoute, là, ce qui t'attend, c'est tu vas naître avec ses deux parents. Je les connais? Oh, oui, tu les connais. Le père, c'est celui qui était ta mère dans la vie précédente. Et la mère, c'était ta nièce. Donc, oui, tu les connais bien. Vous entendiez bien, c'est pour ça qu'on vous remet ensemble, ça devrait te donner un coup de main. Bon, d'accord. Et ils se sont rencontrés. Non, ils sont pas encore. Non, on a un peu de retard, ils ne sont pas encore rencontrés, donc ils ne savent pas que. Mais bon, ça ne nous empêche pas de mettre en place un petit peu le projet. Donc, tu arrives ici, là, dans cette zone-là. Ah ouais, c'est la zone. Ah oui, c'est la zone. Mais bon, comme tu as déjà quand même développé l'individualisme, tu vas pouvoir t'en sortir. D'ailleurs, ton premier projet, ce sera t'en sortir tout seul. Ah, tu ne vas pas être très, très, très aidé. Ah oui, mais bon, avec tout ce que tu as travaillé déjà, de toute façon, c'est ta première épreuve. Il faut que tu développes ton autonomie, donc il faut que tu te débrouilles. Et après, il faut que tu gagnes ça, puis il faut que tu réussisses à faire ça. Et en gros, ton projet, voilà, c'est d'arriver à t'exprimer complètement et à être quelqu'un qui est reconnu par ses pairs, etc. Eh ben, ça va pas être facile. Non, ben, non, c'est. Mais. Allez, courage. Bon, ben, j'y vais, le temps de sauter dans un foetus et j'y suis. Et donc, on descend et c'est parti. Et à partir de là, bon bah voilà, on va vivre cette vie. On va dire, mais tout est écrit d'avance. Ah non, juste les grandes lignes, comme je viens de vous le dire. C'est-à-dire, quel est le projet pédagogique? Quel est le projet psychologique? Quel est le projet de conscience? Ce que je voudrais vous montrer là, c'est que ce cycle, à chaque fois, ça correspond à un projet de conscience. Chaque fois, c'est une évolution de la conscience, c'est un développement de la conscience à travers les formes, à travers la vie, de manière à ce que progressivement on progresse à ce niveau-là. Voilà pourquoi finalement à chaque fois, ce qui va être intéressant dans notre vie, on va le revoir tout du long, c'est de s'interroger, mais c'est quoi le projet de conscience de ma vie là tout de suite? Qu'est-ce que je suis censé développer? C'est quoi? Pourquoi je suis venu ici? Parce que naturellement, on l'oublie. On est tellement engoncé dans la forme, l'âme est tellement coincée dans notre forme que elle peut même pas nous communiquer. Et nous, c'est vrai que quand on cherche à méditer, on peut arriver progressivement à avoir une petite idée. On peut retrouver ce pourquoi on est là. Mais avant qu'on ne communique un petit peu avec cette âme, on n'a plus la moindre idée. Et donc, on s'invente des choses. Pourquoi je suis là, moi? Bah, pour être heureux, pardi. Comme tout le monde. Je suis là pour m'éclater, pour faire des choses, pour être heureux, et puis tout va bien, quoi, voilà. Et l'âme qui dit, mais non, il n'a rien compris, on n'est pas là pour ça. Bon, alors du coup, je m'éclate, mais non. Et donc, on essaie d'imaginer, vous voyez, comment, à travers des essais, des erreurs, on est libre. On est libre des détails. Donc, on peut prendre des fausses routes, on peut prendre des raccourcis, on peut se dire, il y a des moments où on est. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, bah, c'est vrai qu'on retrouve quand même ce pourquoi on était fait et qu'est-ce qu'on avait programmé, donc, du point de vue du départ. Puis après, on a des programmes plus intéressants. Après, une fois qu'on commence à être âme, on dit, bon, ben voilà, maintenant tu as des programmes de service. Maintenant, tu en es un point sur Terre, là, tu en es quand même. C'est combien j'en suis là? 1795e vie. Ouais, quand même. Ben oui. Bon, alors, donc 1795. On est parti. Et alors là, ben, ton projet, c'est vraiment d'arriver à amener un peu plus de cette qualité d'amour sur Terre, un peu plus de cette clarté sur Terre. Et donc, le projet, ce sera d'arriver à rencontrer d'autres personnes, à travailler ensemble, peut-être à faire un projet de groupe. Et comment on va se retrouver? Ah ben ça, vous en faites pas, là, les âmes, vous vous retrouvez toujours. On n'est pas loin les uns des autres. Ah non, vous pouvez naître quelquefois dans des pays différents, mais à un moment donné, il y aura toujours une loi d'attraction qui ferait que vous vous retrouverez. Et à ce moment-là, donc, vous saurez comment travailler ensemble et quoi faire ensemble. Et puis peut-être que vous aurez un projet à ce moment-là. Ah bon, d'accord. Et ben voilà. Mais on va dire, mais ça dure combien de temps tout ça? Oh, ben ça dépend. Par exemple, vous voyez, si le projet, c'est d'arriver à développer, simplement, comme je le disais au début, un peu plus le mental, un peu plus l'émotionnel, ou un peu plus. On dit, bah alors combien de temps? Bah écoute, tant que tu peux, hein, si tu peux, 80, 85, tant que tu peux, si ça sert à quelque chose, c'est bon. Parce que finalement, tant qu'on est capable de remplir notre mission, bah, il n'y a pas de raison de mourir. Donc, c'est tout à fait bon. Par contre, quelquefois, c'est surprenant. Ma mission, là, avec le groupe, là, ma mission de service, etc., tu prévois à peu près combien de temps? Oh, écoute, là, apparemment, ça devrait bien se passer, donc à peu près 55-60 ans. Ah oui, c'est jeune, là. Ah oui, mais il ne faut pas que tu traînes, parce que dès que tu as fini ta mission, on a besoin de toi ici pour en refaire une autre un peu plus loin d'ici un siècle, c'est prévu. Donc, tu as vraiment d'autres choses à faire, donc tu traînes pas. Hein, c'est pas la peine. Ben oui, mais je meurs comment? T'en fais pas, on trouvera bien une maladie. Tout dépend de ça, c'est pour ça que c'est très surprenant. On ne peut pas dire il y a un temps, est-ce que ça veut dire qu'on peut tous vivre le plus longtemps possible? Certainement pas, ça n'a pas de sens. Quelle est la clé? La clé, c'est la mission. La mission de conscience. Est-ce que finalement on est tous des chargés de mission? Et donc on est chargé de mission, on a conscience de cette mission et il faut la mettre en place. Et à un moment donné, si c'est fait, voilà, on peut se tirer, c'est terminé, on passe à la suivante. C'est pas la peine de rester là. L'âme n'a aucune envie de traîner pour le plaisir, parce que pour elle, c'est pas un plaisir du tout. Donc finalement, par contre, lorsque la mission n'est pas complètement remplie, on peut y aller. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, si je comprends bien, si on a envie de vivre vieux, il faut faire sa mission qu'au dernier moment. Donc, pour l'instant, je prends du bon temps et vers 80 ans, je dis, je vais me mettre à ma mission maintenant quand même. Chacun fait comme il veut. On est effectivement libre d'agir comme on veut. On a chacun donc ça en poche, on pourrait dire. On a toujours cette mission-là. Et comment on se construit, comment finalement, à un moment donné, on va sentir que le moment est venu, il y a une impulsion qui est venue, et les âmes, à ce moment-là, se décrochent et préparent complètement leur arrivée, même si c'est difficile pour eux, pour ça qu'on parle chaque fois du sacrifice de l'âme, cherchant réellement à s'incarner. Et qu'on dit que, du point de vue de l'âme, la naissance est une mort, véritablement. C'est un enfermement, parce qu'elle va être terriblement limitée par la forme qui est là. Et puis on va tenter de faire notre mission. Et enfin, il y a une libération donc, au moment de la mort, donc physique. Et puis cette libération, cette élimination, pardon, il va falloir la faire de plus en plus jusqu'à ce qu'on purge donc, tous les corps. Et puis qu'à un moment donné, on se retrouve libre. Mais pendant ce temps-là, c'est vrai qu'on a ramené plein d'expériences. On a ramené plein d'aventures. Et à partir de là, on fait le point de toutes ces aventures. Et dit, très bien, on a bien avancé maintenant. Et donc la prochaine vie, donc à la nouvelle impulsion, on repartira sur ce plan-là. Et toutes nos vies sont finalement comme ça, des cycles organisés autour de projets de conscience. Et encore une fois, je voulais vous montrer ça parce que c'est ce qui donne véritablement sens à la mort. Alors que si on voit simplement que naissance, vie terrestre et mort, si on voit que le bas du tableau, effectivement, ça n'a aucun sens. Alors que si on réalise à quel point, d'abord, nous n'avons pas à nous identifier simplement à cette partie de vie terrestre, puisque nous sommes avant tout l'âme. Si on s'aperçoit à quel point nous sommes véritablement cela, et que c'est tout cet ensemble, c'est tout le cycle qui est extraordinairement vivant, et qu'à chaque fois, les angles sont des changements d'état de conscience. On pourrait même dire que finalement, le terme mort-naissance, on pourrait le mettre à chaque angle. Finalement, qu'est-ce qui se passe là, au moment de ce que nous on appelle la mort? Eh bien, on est à un autre état, qui est notre état justement où on va chercher à éliminer progressivement nos différents corps. Et puis, au moment de la libération, encore mort-naissance. On meurt définitivement à tous nos corps et on est à l'état d'âme, à l'état pur. Et puis, au moment où on va repasser cet angle, à l'impulsion, à nouveau, on meurt à cet état d'âme, à l'état pur, et on va naître progressivement donc, à l'élaboration de nos corps. À nouveau, on se charge de corps. Et puis, à nouveau ici, donc encore mort-naissance, on meurt à cet état donc, non incarné pour se retrouver donc, dans la naissance d'une vie incarnée. Donc, on voit combien ce couple mort-naissance, finalement, on peut le mettre à chaque angle. Et qu'à chaque fois, dans tous ces changements de conscience, il y a toujours quelque chose qui meurt pour quelque chose d'autre qui naît, ou quelque chose qui naît pour d'autres choses qui meurent. Et c'est absolument indissociable. Et que le grand fil conducteur de tout ça, c'est la vie. C'est la progression de la vie, c'est la vie en conscience. Et nous sommes avant tout cette vie conscience, et c'est simplement donc tout ce cycle à travers différents niveaux de conscience que nous avons à suivre et à comprendre. Alors ce qui est intéressant à partir de là, c'est de voir combien c'est nous en tant qu'âme qui décidons de tout. On décide effectivement du projet, aider avec les autres. Ensemble, on décide, je vais faire quoi dans ma prochaine vie? On décide de ce projet, on construit nos propres corps, on décide de naître à un moment donné. C'est nous qui allons vivre, puis c'est nous qui allons décider de la mort, puisque c'est toujours l'âme qui décide qu'à un moment donné, ça y est, stop, c'est fini maintenant, l'expérience est terminée. Donc il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui décidons de la mort. C'est nous en tant qu'âme qui décidons d'un moment que ça s'arrête. Donc du coup, par définition, aucune mort ne peut être injuste. Même la mort d'un enfant, d'un bébé. Disons que c'est une mort qu'on ne comprend pas. Mais on ne peut pas dire que c'est injuste, puisque c'est l'âme qui décide que c'est le moment. Alors on se rend compte que finalement, nous sommes responsables de chaque phase, et qu'à chaque fois, c'est nous qui décidons. Et pourtant, on se rend bien compte qu'au moment où on vit, nous, d'une manière terrestre, on n'a pas l'air de décider de notre mort. On ferait plutôt même l'inverse, on aurait même plutôt tendance à dire « si je peux retarder le moment ». On sent même que si même on avait un message de l'âme, nous disant, eh bien, mort prévue dans une semaine, préparation, on négocierait. Non, mais je me rends compte que je me suis laissé aller depuis quelque temps. Donc je comprends bien, non, mais je comprends bien la décision. Peut-être que, mais j'ai des idées nouvelles concernant ma mission. Je pense que je pourrais relancer un petit peu quelque chose, faire des choses nouvelles. Non ? Vous êtes sûr ? Eh bien, on peut aller beaucoup plus loin. En fait, on va s'apercevoir que plus on va être conscient de l'âme que nous sommes, la mort va cesser complètement dans l'humanité, et ce n'est pas de la science-fiction, je vous raconte, la mort va totalement cesser d'être un processus subi. La mort va être dans l'humanité un processus choisi, décidé, en tant que personnalité, sans parler d'euthanasie ni de suicide. On est bien d'accord. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, bon, bah, je décide que c'est le moment de la mort, je m'empoisonne, je me tue. Ou, non, je ne parle pas de ça. Donc, l'âme décide qu'on meurt à un moment donné, donc ce n'est pas à nous de décider le contraire. Et c'est très désagréable le suicide parce que du coup, on est obligé de recommencer tout. Donc c'est quand on s'aperçoit de ça, on l'a un peu mauvaise de l'autre côté. Non, on n'a pas voulu sauter un obstacle, on a refusé une difficulté. Et bon, bah, tu recommences jusqu'à temps que ça marche. Donc arrivé ici au débriefing, on dit non, c'était une mauvaise idée, je ne le referai pas. Bon. Donc pas de ça. Non, je parle simplement du moment où nous-mêmes, on sera tellement conscient, parce que c'est la clé de quel est l'objectif de conscience de ce cycle. Et je dis, mais je crois que j'ai accompli ma mission. Je crois sincèrement que c'est fait. Et qu'on sera naturellement très bien à l'écoute de l'âme que nous sommes, et on sentira qu'il y a un accord de l'âme. Vous savez, on a tous peut-être lu ou entendu des récits où ça se passe comme ça. Des sages qui ont des disciples qui travaillent avec eux. À un moment donné, le sage leur dit, bah, écoutez, on va se dire au revoir parce que demain matin, vous ne me reverrez pas. Et quelquefois, les disciples se demandent qu'est-ce qui se passe, ils partent en voyage, d'autres comprennent, et en fait, ils reviennent le lendemain matin et il est mort. Ça, ce sont vraiment des moments où la personnalité sait parfaitement que l'âme estime que la mission est terminée, et la personnalité, au lieu de résister, au lieu de négocier, dit, eh ben, quand tu veux, on y va. Si bien que ce qu'il est annoncé par les gens qui voient beaucoup plus dans l'avenir, des maîtres de sagesse, ils nous disent que l'humanité, dans quelques centaines d'années, parce que pour l'instant on n'est pas encore tout à fait prêt, les gens réuniront la famille, réuniront les amis, feront une dernière fête, disant, ben voilà, ma mission est terminée, donc je vais partir, donc je vais mourir avec vous, c'était sympa, donc je remercie tout le monde, je vous dis à bientôt, hein, parce que quand c'est votre tour, on se retrouve tous là-haut. Ah bon, on se quitte pas? Ah non, on se quitte pas, parce que ce qui nous relie tous ensemble, c'est la conscience. Ce n'est pas les faits, ce n'est pas les événements. Et donc, comme c'est le fil de conscience qui continue d'un bout à l'autre, en fait, on ne se quitte jamais. Et donc, on se retrouvera. Donc, simplement, peut-être qu'il y aura momentanément, peut-être une interruption du son et de l'image, mais c'est tout. Et donc, au revoir, au revoir. Donc, et après la fête, on ira s'allonger donc, simplement, tranquillement sur un lit, et on arrêtera de se respirer, et on mourra. Très simplement. Sans aucune maladie, sans aucun problème. On mourra en très très bonne santé. Ce qui serait un mystère pour bien des médecins qui se seront battus toute leur vie pour qu'on réussisse. Mais pourtant, tu étais en très bonne santé, je venais de te changer ton foie, tes cellules, etc. Et comment ça se fait qu'il est mort? Mais il est mort d'arrêter de respirer. Parce que tout simplement, on arrêtait, oui, comme on a parlé, on arrêtait d'aspirer à autre chose. Ça y est, la mission est terminée, maintenant j'aspire à retourner là d'où je viens, pour naturellement continuer mon histoire. Et ça se passera dans la joie, ça se passera dans le calme, ça se passera dans une espèce de fête. Et on arrêtera complètement d'être dans l'angoisse telle qu'on le fait maintenant. En plus, la technologie va nous aider. Il est annoncé par ces mêmes maîtres de sagesse que d'ici un siècle, je dis bien un siècle, on pourra photographier et on pourra filmer les gens qui partent. Tout simplement parce qu'au moment de la mort, le corps éthérique, qui imprègne complètement l'ensemble du corps physique dense, il se replie quelque peu sur les côtés. Et donc il se densifie complètement comme une enveloppe un petit peu sur les côtés. Et avant de partir avec l'ensemble des corps, donc au moment où il décolle du corps physique, donc on peut le voir d'une manière particulièrement. Il y a déjà des personnes qui savent voir ça, hein, qui le voient vraiment physiquement, donc qui sont entraînées quelque peu à ça. Mais plus tard, l'humanité verra ça très très bien. Mais en attendant que l'humanité ou l'ensemble de l'humanité puisse le voir, eh bien, on va inventer technologiquement une sensibilité de caméras, d'appareils photo qui pourront parfaitement photographier et filmer ça. Vous dites, c'est pas possible. Dans un siècle. Vous vous rendez compte, la technologie de 1914, si en 1914, j'avais fait une conférence en disant, eh bien, dans un siècle, on aura une espèce de tout petit boîtier comme ça, qui fera téléphone, qui fera caméra, qui fera, etc. On communiquera sur toute la planète avec des réseaux. J'aurais déliré. Donc, dans un siècle, si ça tombe, ça se passera même avant. Et donc, finalement, ce sera génial, parce que bah, on aura tous notre petit boîtier, je ne sais pas, ou ce sera simplement une montre, ou un point, et puis on pourrait dire, ah, je filme grand-mère. Elle est en train de partir. Ça y est, grand-mère. Ah ouais, elle part. Oh, elle part par la tête. Bien joué, grand-mère. Très bien, très bien. Super. Alors, comment tu te sens? Oh, t'es lumineuse. Ah, vraiment, t'es beau. Tu souffres plus? Ah bah non, c'est sûr. Tu souffres plus. Eh ben écoute, bien écoute, on est content de t'avoir accompagné. Bah écoute, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas aller voir les copains? Tu fais la tournée? Bon, bah écoute, on se revoit un de ces jours. Allez, bye bye. Et on posterait la vidéo sur Hambook. Ces mêmes personnes nous disent qu'on pourra également parfaitement communiquer, parce qu'on le son, on l'aura également. Et que la télépathie qui fonctionne pour l'instant un petit peu comme ça, tant bien que mal, mais il y a beaucoup de gens qui communiquent avec les morts. Il y a beaucoup de gens qui peuvent les voir. Bon, c'est un peu des médiums ou des gens qui sont un peu exercés. Mais c'est vrai que là aussi, la technologie pourra le faire. N'oubliez pas qu'à chaque fois, hein, tout ce que l'humain peut arriver à faire, la technologie peut arriver à le faire. Il y a une espèce de correspondance entre les deux. Et donc, on arrivera à parler avec les morts, on arrivera à les photographier, on arrivera à les filmer, on s'apercevra qu'ils sont parmi nous tout le temps, dans le quotidien, et qu'ils nous accompagnent. Simplement, ils n'ont plus de corps physique et qu'ils sont capables d'autres choses. Ça deviendra une présence familière à tel point que la mort cessera, mais alors totalement, d'être crainte. La mort est simplement ce petit passage d'un état de conscience à un autre. Combien ça n'est que ça. On réalisera combien, tout simplement, on continue de vivre et ça paraîtra tout à fait naturel à tout le monde. Et la peur de la mort, mais ce sera fini, terminé. Parce qu'on aura compris le sens de cela. On aura compris le sens de ce cycle créateur dont la mort n'est simplement qu'un aspect. Alors on pourrait se dire, bon, c'est bien. Mais pour l'instant, on n'en est pas là et on a beau mieux comprendre déjà le sens de la mort. Peut-être que ça, je ne sais pas ce quel effet ça vous fait, mais peut-être qu'on se dit, tiens, mais ça, c'est pas si idiot. On comprend pourquoi l'univers entier meurt. Parce que finalement, qu'il s'agisse d'une planète, qu'il s'agisse d'une étoile, qu'il s'agisse d'un animal, d'un végétal, tout le monde suit ses cycles. Tout le monde travaille la conscience, à quelque niveau que ce soit. Même un microbe, tout le monde développe des niveaux de conscience, même aussi improbables et incompréhensibles que ça nous soit. Et donc, tout le monde passe par ses cycles de vie et de mort. C'est obligatoire. Voilà pourquoi, finalement, comme tout est conscience et tout est vie dans l'univers, tout est cycle, naissance, mort. Et tout est ce processus. C'est le processus universel. Ce n'est pas simplement humain ou terrestre. Alors on pourrait se dire, bon, c'est bien, mais le fait de connaître le sens de la mort, ce n'est pas ça qui fait qu'on apprivoise quand même la mort. Parce que si on essaye de s'entraîner uniquement quand on est confronté à la mort physique, on n'a pas beaucoup de s'entraîner. Non, c'est pour ça qu'il va falloir s'entraîner avec d'autres choses. Il va falloir s'entraîner finalement avec des exemples de mort au quotidien. Et c'est là où finalement c'est intéressant de voir que nous sommes confrontés, nous aussi, tous les jours, régulièrement, à un entraînement possible sur le cycle d'une création, le cycle d'une idée, le cycle de tout ce que nous vivons. Et puisqu'il y a cycle, il y aura forcément à un moment donné toutes ces phases, tous ces angles, dont ce qu'on appelle le processus de mort. Ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement dans le monde des formes. Nous, quand on est finalement dans cette vie terrestre, il faut réaliser combien, chaque fois qu'on est dans la vie, chaque fois qu'on est dans la conscience, cette conscience, elle se développe à travers des expériences formelles. Par conséquent, la forme, c'est quelque chose d'indispensable pour le développement de la conscience. La conscience, elle apprend à travers des formes. Qu'est-ce que c'est des formes? Oh ben, c'est tout. Des formes, c'est notre forme physique, mais des formes, c'est toutes les relations que nous avons, ce sont des formes. Ma famille, c'est une forme. Mes parents, c'est une forme. Là où je suis né, mon boulot, c'est une forme. Mes loisirs, c'est une forme. Ce que je lis, c'est une forme. Ce que je comprends, c'est une forme. Tout ça, tout ce que nous faisons, ce sont que des formes à travers lesquelles la conscience apprend ou n'apprend pas quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement ce rapport entre la conscience et la forme. Et là encore, on va retrouver ce cycle. Naturellement, c'est peut-être plus forcément dans notre vie l'âme qui va décider. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait dire, on va retrouver la même chose par rapport à la personnalité. Et donc, notre personnalité, elle peut décider d'élaborer donc certaines formes. Tiens, je vais prendre ce métier. Et donc, je me prépare à avoir ce métier. Et puis, je vais vivre ce métier. Puis, à un moment donné, peut-être que ce métier disparaîtra, je l'éliminerai, puis je ferai le bilan et je recommencerai pour autre chose. Même chose par rapport à une relation, par rapport à un couple, par rapport à des loisirs. Bref, par rapport à tout, il peut y avoir une conception, quelque chose qui s'élabore, je le vis, j'arrête, j'élimine, je fais le bilan et je recommence. À partir de là, s'entraîner à la mort, c'est simplement, une fois de plus, s'entraîner à la vie du cycle, dont la mort n'est simplement qu'un aspect. C'est s'entraîner à comprendre finalement pourquoi est-ce que je fais les choses. Autrefois, on ne se posait pas ce genre de questions. Il y a quelques siècles, toutes les formes étaient censées avoir la même durée que ma propre vie. Donc, j'étais né même dans telle maison, peut-être ma maison familiale, bah certainement que j'allais mourir dans cette maison familiale. Donc ça dure tout ce temps-là. Je suis né en faisant ce métier. Dans ma famille, bah je vais mourir en faisant ce métier. Je me suis marié très jeune. On m'a marié à 16 ans, et bah, jusqu'à la fin. Bref, la durée des formes qu'on utilisait était à peu près la même que notre durée de vie. Dans notre civilisation maintenant, c'est plus du tout pareil. Maintenant, on réalise que les choses sont rapides. On réalise combien on doit changer. Par exemple, un gamin qui prévoit finalement, donc, il élabore son histoire, il dit « moi j'aimerais bien faire ce métier ». Très bien, il élabore son histoire, et il va commencer à faire un métier. Mais son métier, il se dit « non, non, mais là je voudrais le faire simplement quelques temps, parce que là je vais apprendre telle chose ». Il programme lui-même la mort. « Je vais le faire 6 mois, ou je vais le faire 1 an, le temps d'apprendre ça ». Et après, après je pars à l'étranger, parce que j'ai envie de faire d'autres expériences. Alors quelquefois, les ancêtres diraient « mais pourquoi tu pars ? T'as un beau métier, garde-le jusqu'au bout. » Non, 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 juste en rapport avec ce que j'ai envie d'apprendre. Et puis j'en rapporterai donc les fruits, et à partir de là, j'aurai un autre programme, et un autre métier, et un autre projet. Et on voit comment finalement, maintenant, on sent bien combien notre vie se construit de projet en projet. On a de plus en plus envie de dire, je vais travailler ça, puis après je développerai telle chose, peut-être qu'après je vais complètement me recycler. On voit bien les projets de conscience, parce qu'on dit, mais à un moment, je ne peux pas rester éternellement dans ce que je fais. Même au niveau du couple, on sait bien que apprendre à vivre en couple, c'est quelque chose. Et que ce n'est pas avec la première personne avec laquelle on va me marier que ça va marcher. Donc on sait très bien que bon, là, on apprend à se connaître. Et puis bon, ça va durer un certain temps. Puis j'aurais appris ça quand même. Et quand même, je n'aurais pas perdu mon temps dans ce couple. Et puis bon, un autre projet, puis un autre couple où j'apprends les mêmes choses. Alors bien sûr, c'est quoi le bilan? Je dis ça parce qu'il y a des tas de personnes qui prennent le raccourci. Donc je meurs. Je fais pas le bilan, il recommence. Et des gens qui s'étonnent, pourquoi je tombe toujours sur le même mec? Ça marche jamais, mais c'est pas possible. Ah bah écoute, si tu passais par le bilan, les leçons, etc., peut-être que tu comprendrais qu'il y aurait un autre projet à établir. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de ne pas surtout faire ce raccourci et de toujours passer par un rythme à 4 et non pas à 3 temps. Et donc, à travers tout, on peut réfléchir, mais finalement, au quotidien, qu'est-ce que je travaille en conscience à travers tel projet, à travers telle mission. À travers mon boulot, qu'est-ce qui se travaille? À travers ma relation de couple, qu'est-ce qui se travaille? À travers mes amis, qu'est-ce qui se travaille? À travers mes loisirs, qu'est-ce qui se travaille? Bref, à chaque instant de ma vie, il y a forcément quelque chose qui se travaille. Et du coup, je m'aperçois que j'ai plein de cycles et que je pourrais presque dessiner, vous voyez, la chose comme ceci. Si j'imagine que c'est ma flèche du bas hein, du cycle, ben, je vais m'apercevoir que finalement, j'ai plein de petits cycles comme ceci, vous voyez, partout. Et ma vie, finalement, est un ensemble de sous-cycles à travers lesquels j'évolue. En me rendant compte que chacun peut être à un niveau extraordinairement différent. Ça veut dire que, par exemple, à un moment donné, question boulot, j'ai l'impression que je suis en fin de cycle. C'est une histoire qui se termine, j'en apprends plus rien de mon boulot, je sens que j'en ai marre, je sens que je vais partir sur autre chose. Alors que dans le même temps, je sens que je suis en début de cycle par rapport à une relation. Je suis dans une relation nouvelle. Ou bien, avec ma femme, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, on sentait bien qu'il n'allait pas. Et du coup, on a réussi à repartir sur un nouveau projet, parce qu'on n'est pas obligé, vous voyez, d'éliminer à chaque fois les formes. On peut aussi redéfinir un nouveau projet en gardant le même couple. Et du coup, on sent qu'il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui redémarre. Dans le même temps, on peut sentir que, oui, mais alors du point de vue de la vie en général, là, je suis un peu dans l'expectative. Je ne sais pas, je suis un peu paumé, là, je ne sais pas très bien où j'en suis. Et donc, on peut voir, vous voyez, que finalement, suivant nos flèches, suivant les domaines dans lesquels on est, on peut avoir des tas de flèches dans tous les sens. C'est ce qui peut nous expliquer combien quelquefois notre vie n'est pas aussi cohérente à tous les niveaux qu'on pourrait le croire et l'espérer. Comme si au niveau boulot, au niveau couple, au niveau loisir, au niveau réflexion sur la vie, tout est remarquablement identique. Non, non. Il y a des phases extrêmement différentes. Vous voyez, c'est comme si tous ces aspects-là donc, pouvaient se croiser. La question fondamentale, elle est là. chercher à chaque fois à percevoir qu'est-ce qu'on travaille à travers ce qu'on travaille. De manière, là aussi, à pratiquer justement la mort. À savoir se rendre compte tout simplement de notre quotidien, et souvent on le fait dans les exemples que je viens de vous donner. Ben, j'ai pratiqué ce boulot pour développer ça, et quand j'estimerai que c'est terminé, j'arrête. Et vous voyez que finalement, dire j'arrête, je change, je pars, je vais voyager, je déménage, je passe à autre chose, c'est des termes synonymes de mort. C'est à chaque fois que je décide moi-même que je vais mourir à ça, que je vais partir. Quelquefois, par exemple, je décide que je vais déménager, tiens, je vais partir en Australie. Et je pense que je vais vivre là-bas, en tout cas un certain nombre d'années. Et je dis au revoir aux gens. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on dit au revoir aux gens, les gens disent, bon, bah, coup de bonne vie là-bas, hein, etc. Donc on sent bien quand on a un déménagement comme ça. Mais les gens sont contents pour nous. Et pourtant, c'est comme si on mourait. La plupart du temps, ils nous reverront jamais. Souvent dans les déménagements, quand on est dans une ville et puis qu'on va voyager à 500 km, il y a des gens qui disent « Oh, mais je reviendrai vous dire bonjour », on se le dit ça comme ça. Peut-être qu'on va garder une ou deux personnes, mais les autres, on ne les reverra jamais. Donc c'est comme si on mourait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pleure pas? Mais parce qu'on n'a pas l'impression qu'on meurt. On a l'impression que simplement on passe à autre chose, puis que c'est réversible. C'est vrai qu'on pourra toujours se revoir. On ne réalise pas que dans la vraie vie aussi, on pourra toujours se revoir. Et du coup, si on disait, bah, écoutez, je pars en Australie, oh, bon, bah, écoute, bonne vie là-bas, c'est sympa, bon, dommage, on va peut-être pas se revoir avant des années, mais bonne vie. Alors que si on disait, bah, écoute, je vais mourir, oh non. Alors que c'est rigoureusement pareil. Mais vous voyez comment ça se passe dans notre tête, dans notre conscience. Voilà pourquoi apprendre à mourir au quotidien, apprivoiser la mort, c'est apprendre à dire stop. C'est apprendre que finalement, la plupart du temps, au lieu de mourir, on va dans la non-vie. C'est-à-dire que la vie, c'est vraiment ce qui donne l'évolution de conscience à toutes les formes. Et j'étais vivant dans ce boulot, et j'ai appris plein de trucs. Maintenant, j'apprends plus rien. Bah, pourquoi tu gardes le boulot? Bon, parce que j'ai peur du chômage, et puis voilà, et puis donc je vais rester là-dedans. Bah, du coup, je suis dans la non-vie. Il n'y a plus rien. Et tes amis, là? Bah, mes amis, bah, pff, c'est vrai qu'on n'a plus grand-chose à se dire, mais... Ouais, mais il faut quand même les inviter. Pourquoi on va les inviter? On n'a plus rien à se dire. Bah, c'est notre tour. Là encore, on est dans la non-vie. Et donc, vous voyez, quelquefois, combien dans ces aspects-là, on devrait apprendre à dire stop. On devrait dire j'arrête. C'est fini. Mission accomplie. On s'est dit ce qu'on avait à dire. On a à vivre ce qu'on avait à vivre. Et à partir de là, on part. On cesse. On arrête. Et quand on pratique ça, vous voyez, dans toutes nos petites histoires au quotidien, et on aurait toujours plein d'occasions pour ça. Ne pas s'éterniser sur une conversation au téléphone, ne pas s'éterniser avec quelqu'un avec qui on discute dans la rue, ne pas s'éterniser dans certaines situations pour dire, bon, je pars, mais vas-y, pars. Vraiment apprendre à dire, je pars, j'arrête, stop. Ça, c'est apprivoiser la mort au quotidien. Et vous voyez, ce qui va être intéressant, c'est qu'à travers ça, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout simplement à concevoir, à sentir lorsqu'une mission est terminée. Et qu'elle soit minuscule, qu'elle soit beaucoup plus grande, ben c'est notre façon qu'on a apprivoisé la mort. C'est-à-dire que lorsqu'on percevra que notre mission principale, ben elle aussi, elle est terminée, on n'aura vraiment pas de difficulté à dire, bon, ben, ça y est, on meurt. Alors là, on pourrait dire, bah oui, mais pour soi, ça va, quoi. C'est la mort des autres qui est difficile. C'est la mort de mon conjoint, c'est la mort de, si jamais, la mort de mes enfants, si jamais ça arrivait, c'est épouvantable. Donc j'ai beau savoir tout ça, etc. C'est émotionnellement que ça travaille. J'ai beau dire stop, etc., et m'entraîner, ça va quand même, si ça arrive, être très 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 dur. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que le fait d'apprivoiser la mort, ça va nous demander donc vraiment de faire un travail en profondeur. Même si on peut s'entraîner comme ça au quotidien, même si on peut comprendre la logique de la mort, c'est vrai que ça va nous demander vraiment de nous entraîner. D'abord, pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça pourrait nous demander? Pour nous, ça va nous demander vraiment d'apprendre à rentrer dans la vie. C'est-à-dire à pouvoir rentrer dans la vie de l'âme, dans la vie de l'être, de manière à percevoir combien ce cycle il est là tout le temps. Ça nous demande de nous arrêter, de faire des pauses, de méditer, et de sentir qu'est-ce qu'il y a au-delà de notre vie active, au-delà de nos formes. Qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui vit en nous? Et puis d'abord, qui suis-moi ? Et qu'est-ce que je suis venu fiche dans cette vie-là ? C'est quoi ma mission fondamentale ? C'est pas facile, hein ? Faut déjà être bien entraîné à la méditation pour pouvoir dire « Je crois que ma mission fondamentale sur cette terre, c'est... » et d'avoir une phrase. Non, non, mais sans phrase, simplement en senti. J'ai l'impression que je crois que j'ai ça à faire ou j'ai ça à développer. C'est sûr que plus on avance en âge et qu'on regarde un petit peu ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on vit déjà, ce qu'on sent, c'est vrai que c'est quelque chose qui se précise. Quand on est jeune, c'est pas du tout simple d'arriver à préciser « Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Qu'est-ce que je suis venu vivre ?» Mais voyez, en tout cas, être à l'écoute de cela. Sentir que l'essentiel, c'est vraiment de sentir cette vie qui passe à travers toutes nos activités. Ne pas se laisser récupérer par les apparences, par la vie des formes. Et surtout, ne pas donner, comme certaines personnes disent, « Oh, mais moi, je suis dans les cycles en permanence. Mais alors, moi, tout le temps, aucune difficulté. Moi, j'ai changé de métier 10 fois. Moi, dans ma vie, j'ai 40 ans, mais j'ai déjà déménagé 20 fois. » Et puis j'ai changé de coupe tout le temps. Et puis j'arrête pas de changer. Non, non, mais moi je suis extrêmement, complètement dans la vie. Non, 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 non. Ça, c'est pas être dans la vie. Ça, c'est être dans l'activisme. Ça, c'est se laisser récupérer justement par tout ce qui est nouveau, par tout ce qui se présente. C'est être dans la dispersion totale. C'est justement parce que j'ignore totalement ce que je suis et ce que j'ai fondamentalement à faire que je me disperse dans une foultitude de choses complètement variées, disparates, et que j'ai l'impression que je suis dans la vie parce que je suis tout le temps agité, mais je ne suis absolument pas dans la vie essentielle. Je suis dans une espèce d'activisme formel. Beaucoup de gens qui confondent les deux, qui croient être dans la vie parce qu'ils sont dans cet activisme. Donc ça me demande vraiment d'être dans cette écoute, de percevoir justement qu'est-ce que c'est que cette vie fondamentale. Percevoir le vivant. Et puis m'interroger pour chacune des formes. S'interroger en se disant, mais qu'est-ce que c'est fondamentalement ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Ce qui est intéressant, oui, c'est que c'est justement ce qu'on a travaillé ce mois-ci avec l'énergie poisson. L'énergie poisson, c'est toujours s'interroger sur qu'est-ce qui est essentiel à affirmer dans ma vie. Et ce mois-ci, c'est vraiment ce qu'on nous demande. Si bien que c'est pour ça qu'on a toujours le carême en rapport avec l'énergie poisson et que ça commence demain. Et que le carême, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'occasion pendant un mois d'affirmer la vie essentielle en nous. C'est comme si on pouvait se retirer quelque peu, prendre de la distance de nos activités, de nos choses qui nous semblent tellement importantes à faire dans notre métier, dans nos activités, dans nos retards, etc. Dire, attends, prends du recul, qu'est-ce qui est essentiel ? C'est quoi ? Tu étais chargé d'une mission, c'est quoi ta mission ? Et quand on sent cet essentiel, même si ce n'est pas clairement, quand on sent ça, dire « c'est ça, moi, mon essentiel ». Et qu'est-ce que ça va produire ? Oh, c'est fabuleux. Ça produit une stimulation de toutes les formes de vie autour de nous. C'est comme si on redonnait un coup de vie dans tout ce que l'on fait. Et puis, deuxième effet fondamental, c'est celui qu'on appelle le carême, ça élimine toutes les vieilles formes qui n'ont plus lieu d'être, tout ce qui nous encombrait, tout ce qui est dans la non-vie. C'est une épuration extraordinaire. C'est vraiment, et parce qu'on n'a pas à épurer par nous-mêmes. C'est cette affirmation de vie qui fait que si c'est ça l'essentiel, mais ça j'ai pu à le faire. Depuis combien de temps je me traîne ça ? Pouf ! Et ça part tout seul. Voilà ce qu'on a à faire dans cette énergie poisson. Affirmer cela. Et nous-mêmes, donc, si je déborde maintenant de ce mois-ci, eh bien régulièrement nous avons à s'interroger sur nos différentes formes. Qu'est-ce qui est essentiel dans mon couple ? Qu'est-ce qui est essentiel dans mon travail ? Qu'est-ce qui est essentiel à tous les niveaux ? Est-ce que finalement c'est très vivant mon boulot ? C'est très vivant mon couple ? Ou est-ce que c'est simplement une vie d'habitude ? Je suis habitué, c'est comme ça. Alors c'est vivant ? Oh oui, c'est vivant. Vraiment vivant ? Oui, 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 oui. Ça se renouvelle tout le temps ? On sent souvent l'essentiel ? Arrivons à distinguer ce qui est vivant de ce qui est simplement une vie d'habitude et qui est en réalité dans la non-vie. Et cherchons à arrêter tout ce qui ne peut plus être visité. Il y a certaines choses, je parlais du couple tout à l'heure, quelquefois on se rend compte que dans notre couple, c'est maintenant l'habitude, il n'y a plus rien, le projet de départ, il n'est plus là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout de suite divorcer ? Pas forcément. Peut-être qu'on peut retrouver ensemble la vie, revivifier ça. On peut toujours essayer, à condition que les deux soient d'accord. Mais si ça ne marche pas, du coup, effectivement, il va falloir se séparer. Peut-être c'est dommage, mais il faudra en arriver là si on ne peut pas faire la chose. Mais on ne peut pas rester dans cette non-vie. C'est tuant pour tout le monde. Ton vie, ça peut nous amener constamment comme ça à percevoir l'essentiel de cette vie. et à dire, mais voilà, ça doit nous amener à percevoir finalement comment progressivement on doit se détacher. Ça nous amène à un détachement. Être dans la vie, ça nous détache de tous nos attachements, de toutes nos habitudes. Et les attachements, qu'est-ce qu'on en a ? Mais alors, qu'est-ce qu'on en a ? Et c'est pour ça qu'on est habitué. On est attaché à notre maison, on est attaché à notre foyer, on est attaché à nos amis, on est attaché à nos habitudes, on est attaché à tout. Je vais une fois dans un restaurant, je m'installe quelque part. La deuxième fois, quand je reviens, je reprendrai bien ma place. Ta place. Oui, d'habitude, je suis venu une fois, mais je suis là. Alors, si vous jamais deux fois la même place, je vous dis pas, là, vous êtes vraiment attaché, là, vous dites, vous me réservez la place tant parce que c'est ma place. Bon. Donc, on n'arrête pas de s'attacher à tout. C'est prodigieux. Et alors, au niveau affectif, bien sûr. Et c'est ce qui nous joue tellement des tours par rapport à la mort de l'autre. Quand on dit, mais t'en as de bonnes, toi, faut choisir soi-même de dire stop. C'est à nous de décider de la mort de toutes les formes. Mais je me suis fait plaquer. Ma femme, elle est partie. Ah oui, je n'ai pas choisi du tout. Ah ben oui, parce que tu n'as pas vu venir. Tu n'as pas été à l'écoute de ce qui s'est passé. Mais là, je me suis fait virer de mon boulot. Mais je n'ai pas voulu. Ah ben non, mais là aussi, il y a quelque chose que l'âme te fait signe. Depuis combien de temps ? Est-ce que c'était un boulot qui était bien, qui me rapportait des sous. Là, maintenant, je suis mis dehors, ça va être un peu plus dur. Ah oui, mais tu vas avancer. Et quand on interroge quelquefois les gens qui ont été comme ça licenciés, et pour qui c'était très très dur, si on les interroge quelques mois ou quelques années plus tard, la plupart du temps, ils disent, mais finalement, c'était un mal pour un bien, parce que j'ai découvert autre chose, j'ai fait de nouvelles formations, à travers ça, j'ai découvert d'autres personnes, et puis finalement, maintenant, je suis très content de ce que je fais. On s'aperçoit que finalement, on a régulièrement comme ça des choses qui nous font progresser, qui nous font avancer. À condition qu'on puisse se détacher. Apprendre à se détacher, c'est vraiment important, même dans notre façon d'aimer. On aime avec attachement. Comme on le dit, on crée des liens. Je suis très attaché à toi. Et si on apprenait à aimer sans lien, à aimer sans attachement, ça fait peur, hein ? On dit, ah, aimer sans attachement, c'est un amour froid. Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais alors, comment on s'entraîne à ça ? Oh ben, on peut s'entraîner sur des petites choses. Penser que chaque chose peut mourir à chaque instant, on a vécu des moments super. J'étais très content d'être là. J'étais très content de vivre ça. J'étais très content de te voir. J'étais très content. Mais on peut mourir là-dessus, ça n'a aucune espèce d'importance. Par exemple, apprenons à aimer sans attachement nos animaux. Notre poisson rouge, notre hamster, notre chat qui vient de mourir, notre chien. On peut apprendre à aimer ces animaux sans attachement. On les aime beaucoup, mais on sait très bien que leur vie leur appartient. C'est à eux que ça va se passer. Et qu'à un moment donné, ils vont repartir aussi, normalement, et puis c'est tout. Et puis c'est très bien pour eux. L'âme s'est libérée. Mais s'attacher, ça nous rassure. Voilà pourquoi on aime, nous, justement, d'une manière qui nous rassure avec ces attachements. Or, l'amour, c'est quelque chose qui doit rendre libre. Donc l'attachement, c'est tout l'inverse. Apprenons à aimer de manière à rendre les autres libres. Rendons-nous compte que, comme je disais tout à l'heure, chacun d'entre nous, nous avons chacun nos propres cycles, nous sommes tous déchargés de missions, et qu'il n'y a donc pas de mort injuste. Et si je ne comprends pas pourquoi tel enfant est mort à 14 ans, je trouve ça dégoûtant et injuste, mais il avait son propre cycle, il avait une mission, moi je ne la connais pas. Et ce que j'appelle injuste, c'est simplement la méconnaissance du cycle de l'autre. Et si à un moment donné, il y a des séparations, s'il y a des choses qui se terminent, c'est tout simplement parce que je ne connais pas, donc tout simplement là encore, le cycle de l'autre et de quelle mission il était en question. Et donc si je cherche à m'attacher les choses, c'est comme si finalement j'essayais de relier les cycles des uns des autres à mon propre cycle. Vous ne mourrez pas et vous ne partez pas avant que je le dise. Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi, vous voyez, ça va nous apprendre la relation à l'autre. C'est à découvrir justement c'est quoi son propre cycle. Ça va nous obliger à travailler l'écoute, à devenir impersonnel, à se décentrer. Comment est-ce qu'on peut apprendre à se décentrer ? Tant que je suis centré sur moi, ma vie, et que j'essaie de ramener les cycles de tout ce qui m'entoure, le cycle de mon chien, de mon chat, de mon mari, de ma femme, de mes enfants, et tout ça c'est à moi, c'est ma vie, c'est mon cycle, c'est mon truc, Je ne suis pas du tout impersonnel. Je suis extraordinairement centré sur moi. Et j'essaie de tout gérer à partir de moi. Si je leur dis, mais non, c'est votre vie. Nous avons des choses à travailler ensemble, nous nous rencontrons, nous vivons des tas de choses ensemble, nous nous aimons, mais c'est votre vie, c'est votre choix. C'est là qu'on vient, on voit par exemple, l'amour qui ne crée pas d'attache est tellement important dans l'amour avec des enfants. Combien on est souvent dans l'amour qui attache, mais c'est pour leur bien. Comment les parents ont souvent à apprendre cet amour qui rend libre? Ben c'est vrai qu'à partir de là, on peut se rendre compte combien écouter le processus de l'autre, écouter le projet de l'autre, écouter le cycle de l'autre. C'est quoi ton projet de vie? C'est même rare, oui, quand on se le fait en couple. Quand on interroge, des personnes disent, tu connais le projet de vie de ton mari, de ta femme? Tu sais pourquoi il s'est incarné? Si je suis un peu centré sur moi, je vais dire, ben oui, pour m'aimer. C'est clair. Pourquoi d'autres? Oui, c'est un petit peu léger. Mais son âme est venue pourquoi? Pour quel projet? Ben, je ne me suis jamais posé la question. Ben non, ben, c'est peut-être intéressant de se la poser. Même si je me la pose pour moi, il faut que je me la pose pour l'autre, pour les autres, pour mes amis, pour tous les gens avec lesquels je suis en rapport. Se décentrer. Devenir impersonnel. Travailler l'écoute. Là, on est vraiment dans des choses fondamentales. Et puis, c'est là qu'on va retrouver ce qu'on voyait la fois dernière. Vous vous souvenez, on disait la fois dernière, ce qui est important, ce n'est pas de voir tel pôle ou tel autre pôle, mais de voir qu'est-ce qui se passe entre deux. Ce qui est important quand on veut comprendre justement l'évolution, c'est de se voir, mais qu'est-ce qui se passe entre les gens? Parce que là, on n'est pas du tout dans la tâche. Lorsque moi, je me définis en tant que moi, et que toi, je te définis en tant qu'une personne, bah forcément, mes relations à toi, c'est forcément de la relation de la tâche. Si notre attention se porte sur qu'est-ce qui se passe dans la relation entre nous deux? Qu'est-ce qui se passe dans la relation avec les gens? Qu'est-ce qui se passe dans la relation entre tout? Là, vous verrez à quel point ça nous amène dans l'impersonnalité, dans l'écoute, combien ça nous amène à comprendre qu'est-ce qui se passe dans des cycles qui se rencontrent et non pas qui se phagocytent. Ce n'est pas ton cycle, c'est mon cycle, c'est et à nous deux, qu'est-ce qu'on crée comme cycle? Quelle création nouvelle? Qu'est-ce qui se passe dans un couple, dans un travail, avec des collègues, dans un groupe, dans une société, dans une nation? On disait la fois dernière, apprenons à regarder entre. Qu'est-ce qui se passe dans la relation? On a vu que la véritable relation de groupe, son secret, c'était là. Ce n'était pas penser à l'ensemble, c'est penser à qu'est-ce qui est en train de se créer dans l'interrelation de tous. Et là, il y a vraiment quelque chose d'impersonnel. Apprenons à écouter cela. Et là, on sait que tout ce qui se passe à ce niveau-là, ce n'est pas relié à telle ou telle personne, à telle ou telle forme. Ça peut se vivre, puis s'arrêter. Puis il y a quelque chose d'autre qui apparaît, puis qui disparaît. Et là, on peut s'apercevoir que finalement, on est complètement dans l'instant présent, dans la vie présente, dans ce qui se génère parce que des gens sont là, parce que des gens se parlent, parce que des gens, à un moment donné, ont fait une super relation. Nous, on a l'habitude de dire oh, « c'était super ce soir. Bon, alors, ton numéro de téléphone, maintenant, on est amis, hein, puis on s'invite à dîner. Pourquoi faire ? C'était super ce moment-là. Laissons-le. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il n'y en aura jamais d'autres. Restons là-dedans. » Ne voulons pas fixer les choses, s'attacher aux choses. Et ainsi, vous voyez, on s'aperçoit que la mort devient un processus presque imperceptible, tout simplement parce qu'on s'aperçoit que dans le cycle des choses qui apparaissent et disparaissent, ben voilà, on a un angle qui est aussi important. L'angle de la naissance est aussi important que celui de la libération, qui est aussi important que celui de l'impulsion, qui est aussi important que celui de la naissance. Et tout ça, ça tourne en permanence. Et la mort passe totalement inaperçue parce qu'on est dans ce cycle de vie, d'évolution de conscience en permanence. Voilà comment, vous voyez, dans notre vie, on peut apprivoiser la mort. Ça nous demande un gros boulot. Hein. Les mots que je viens de vous donner ne sont pas des mots simples. Hein. Impersonnalité, écoute, n'attendre rien de personne, n'exiger rien, détachement. Tout ça, on l'obtient vraiment en étant de plus en plus en rapport avec l'être que nous sommes fondamentalement. Ah, ça ne se travaille pas sur notre émotionnel. C'est en étant cela qu'on comprend de plus en plus la force, la puissance de cela. Et puis, ça va nous ouvrir aussi progressivement à une vision mondiale. Parce que la société, c'est pareil, elle a ses propres cycles. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Est-ce que nous pouvons aussi participer finalement à une société qui, économiquement, où est-ce qu'on en est? À quel moment du cycle on en est dans notre vie économique? Et en France, dans la société française, où est-ce qu'on en est? On est à la naissance d'une nouvelle société, on est à la mort d'une nouvelle société, on est en train d'éliminer, on est en train d'élaborer un nouveau projet. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Et l'Ukraine, où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça? Et Poutine lui-même, est-ce qu'il n'est pas en train finalement de s'éliminer lui-même finalement du processus? Tas de questions. Qu'est-ce que c'est que la fin d'un régime? Qu'est-ce que c'est que la fin d'une société? La fin d'une nation? Qu'est-ce que c'est que le début? Et nous, à quoi est-ce que nous participons? Est-ce que finalement nous vivons dans une société ou dans un pays sans savoir du tout ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se passer? Ou est-ce que, en tant que responsable, on dit, moi je crois qu'on en est là et je crois que ce serait intéressant d'encourager la naissance ou même d'encourager la mort? Comme on peut le faire aussi parmi nous. Combien de personnes, vous voyez, n'encouragent surtout pas la mort chez les autres? Oh, je veux partir. Oh ben non, reste un peu avec nous. Non, non, moi, grand-mère, j'en ai assez, j'ai assez vécu. Mais non, grand-mère, non. Mais non, vas-y, pars. Tu l'aimes pas, ta grand-mère? Mais si, justement, je l'aime. J'encourage à partir. Ou j'encourage la société à arrêter. Ou j'encourage, finalement, tout autour de moi à rentrer dans ce cycle, à voir là où on en est, et finalement, à faire ce qui est juste. Voilà donc comment nous pouvons nous entraîner au quotidien, apprivoiser la mort. Et c'est vrai que plus nous apprivoiserons cette mort donc en faisant tout cela, plus la nôtre, physiquement, nous apparaîtra tout à fait sans aucune histoire, sans aucun problème. On mourra très simplement, très facilement. Et notre société, globalement, à force de voir des personnes qui meurent comme ça, on en arrivera à ce que je vous dis, que chacun choisit le moment de sa mort, parce qu'on comprendra tous combien c'est simplement un petit passage, un petit interlude comme ça, dans cette gigantesque histoire d'évolution de conscience. Je vous propose de méditer. Nous démarrons toujours en nous centrant au niveau frontal, point de concentration, point de la personnalité. Puis nous cherchons à relier le point au-dessus de notre tête. C'est là où est l'être essentiel que nous sommes. L'âme, la conscience. Rejoindre ce point, c'est rejoindre un point de clarté intérieure, quelque chose qui s'illumine intérieurement. C'est rejoindre une qualité comme l'amour, l'unité, la vie. Et nous cherchons vraiment à redevenir cela, c'est-à-dire ce que nous sommes véritablement. C'est comme une petite mort, comme si nous retournions au point que nous sommes. Et en cherchant à rester sur ce point, nous pouvons nous interroger sur quelle est la mission de cette vie. Quand nous sommes partis de ce point il y a plusieurs années, qu'est-ce que nous avons décidé avec les autres âmes? Ne cherchez pas à faire une phrase. Mais peut-être au début simplement à sentir comme une impression. Une qualité de vie. Peut-être que peu à peu, un mot peut vous venir. Ça peut être aussi une phrase. Mais ne forcez pas. Cherchez simplement à être vraiment dans la sensation de ce qui vous paraît être votre raison d'être sur Terre, cette vie-là. Et dans la mesure où vous l'apercevez, est-ce que cette raison d'être, elle s'exprime plus ou moins dans tout ce que vous faites, métier, loisirs, dans tout ce que vous vivez au niveau du couple, avec les amis? Certainement pas tout le temps, mais est-ce que par moment vous retrouvez vraiment cette raison d'être? Alors tout notre travail, c'est d'affirmer très fort cela. Ce que vous sentez, ou le mot que vous avez, affirmez-le le plus puissamment en vous depuis l'âme. Comme si l'âme affirmait cela sur tout votre être. Sentez combien ça peut vivifier tout ce que vous êtes, tous les compartiments de votre vie. Combien ça redonne de la vie à tout. Puis sentez combien ce renouveau peut quelquefois chasser, épurer des formes usées, des vieilles choses qui ne sont plus vraiment dans la vie, des vieilles formes qui ont été très bien mais qui ne le sont plus. Aussi bien dans le monde de nos idées que de nos relations, que on se dit mais ça n'a plus de raison d'être. Mais c'est l'affirmation de vie qui chasse ces vieilles formes. Nous revenons au niveau du centre frontal. Vous revenez bien dans tout votre être, vous remettez bien les poignets, les chevilles, et on expire bien.